Bonjour à tous, ce matin nous avons deux thèmes qui sont susciter et reconnaître des appels et développer des ministères dans l'église locale. Ils sont présentés par le pasteur Michel. Une bonne écoute à tous.
Voilà, bonjour à tous, ceux que j'ai pas salués. Et pour ceux qui ont passé une soirée amoureuse, ça a été hier soir? Ok. Vous n'êtes pas dans la culture du mercredi soir alors, pas encore. En tout cas, soyez les bienvenus. On souhaite la bienvenue. On a des visiteurs, un couple qui vient de Besançon, responsable de l'église Assemblée de Dieu. Il s'agit de David et Esther. S'ils veulent bien au moins se lever, on va vous accueillir. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Je ne dis pas que votre vie ne sera plus jamais la même, mais néanmoins, on va faire en sorte d'avoir un bon témoignage au milieu de nous, pour vous. Voilà. Voilà, soyez les bienvenus. Donc, le thème général, c'est la culture apostolique, mais le sujet qui m'a été donné ce matin, c'est comment choisir et lever des collaborateurs. Donc, que vous soyez pasteur ou en charge d'église, ou que vous soyez responsable d'un secteur ou un autre, je pense que tout le monde va se retrouver dans ce qui va être partagé, avec bien sûr des nuances caractéristiques au niveau de la vie d'une église. Donc, pourquoi ce sujet, nous le portons et pourquoi nous l'avons à cœur ? Ben, tout simplement parce que il nous intéresse dans le sens où nous voulons vraiment mettre l'accent dans la formation de disciples et de lever les personnes dans leur appel. Nous voulons faciliter la levée de collaborateurs. En tant que ministère, nous voulons consacrer du temps et le temps nécessaire à former d'autres ministères ou d'autres collaborateurs. À vrai dire, ça devrait être peut-être principalement la priorité de notre ministère. C'est-à-dire que je rappelle simplement que notre vocation en tant que ministère n'est pas d'exercer le ministère, c'est de perfectionner les saints au ministère ou au service, d'accord ? Donc, nous pouvons malheureusement parfois voir des situations où les pasteurs se plaignent, à juste titre, de tout faire dans leur église, mais quelque part, est-ce qu'ils n'en sont pas un petit peu responsables ? Alors, on va essayer de voir ça. Et l'idée, c'est de ne pas tout faire, c'est de trouver les bons collaborateurs et aussi de les impliquer en tant qu'équipiers, en tant que collaborateurs, mettez le mot que vous voulez, hein, à la charge ou au travail de l'Église. D'accord ? Donc, le problème ne vient pas forcément des personnes, mais peut-être de nous en tant que responsables d'Église et la tentation par rapport à notre histoire, notre parcours, notre chemin, notre vie, la tentation est de vouloir parfois faire et tout faire. Alors qu'il y a au milieu de ces assemblées des gens qui attendent pour pouvoir simplement aider au service. Donc c'est comment nous y prendre de ce côté-là et comment faire pour y parvenir. Je vais essayer de voir ça par rapport à quelques idées, puis aussi par rapport à l'expérience. Il est évident que si on aborde le sujet, c'est parce que nous devons être prudents dans la manière de mettre en place les collaborateurs ou de les former, de les mettre en responsabilité. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut faire, mais il y a une manière ou plusieurs manières, on ne verra pas toutes les manières, hein, mais quelques manières de faire. Ce qu'on peut rappeler seulement, c'est qu'en règle générale, on ne peut pas amener les collaborateurs plus loin que là où nous-mêmes nous sommes parvenus. Donc il y a une nécessité de notre part de toujours grandir, et plus vous aurez de collaborateurs, plus vous serez amené à devoir grandir. D'accord ? Et puis cette croissance-là, qui commence d'abord chez nous, se fait pas toujours aussi facilement qu'on le pense. C'est-à-dire qu'il y a tout ce que les manuels peuvent vous enseigner sur le sujet, et puis il y a toute la réalité que vous allez découvrir sur le terrain. Et parfois, il y a vraiment de la distance. Quand vous lisez le livre, ça paraît tout facile. Et puis quand vous commencez à mettre la main à la pâte, vous dites, mince, est-ce que je vais m'en sortir avec ce collaborateur ? D'accord ? Donc on va essayer de voir ça. Mais il y a néanmoins une règle, c'est que vous ne pouvez pas amener les gens plus loin que là où vous êtes parvenu. Donc, si vous avez besoin d'un collaborateur, ce ne sera pas très difficile. Si dans votre cheminement, vous en avez besoin de 5, 10 ou 20, ben, ce ne sera pas les mêmes choses. Il n'y aura pas les mêmes attentes. D'accord ? Donc, plus nous grandissons personnellement, plus nous prenons le temps de grandir personnellement avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'enseignement, dans le travail en quelque sorte, plus nous serons à même d'élargir notre vision et notre capacité d'accueillir de nouveaux collaborateurs au sein d'une équipe. Ok. Alors, notre responsabilité première, c'est d'identifier les collaborateurs potentiels. Il existe quelque chose de plus important et de plus rare que la compétence. Vous pouvez, vous, être très compétent. Mais il y a quelque chose de plus grand, c'est l'aptitude à reconnaître la compétence chez les autres. On va y revenir un peu plus loin dans l'exposé, mais ça, c'est très important. Une des premières responsabilités d'un responsable qui connaît de la réussite, ou je me méfie des mots que j'utilise, hein, ou du succès de son propre ministère, une des responsabilités les plus importantes, c'est d'identifier et de bien discerner les collaborateurs potentiels. Et c'est une tâche qui est cruciale, mais qui n'est pas toujours facile. Et puis, si on avait le temps de demander aux plus anciens parmi nous les expériences vécues durant leur ministère, on aurait beaucoup de témoignages à ce sujet. On a cru que c'était la bonne personne, on a pensé que, on a investi dans, et puis finalement, ça a pu finir parfois par des déceptions, des échecs, des crèves-cœurs, des trahisons, et puis j'en passe, quoi. D'accord ? Donc, je dirais, quelle que soit l'expérience que vous avez vécue jusqu'à maintenant, le drame serait de se dire, moi, j'ai donné, c'est bon. Je ne veux plus m'embêter avec des collaborateurs. Je préfère faire le job. On aura moins de croissance, il y aura moins de personnes dans la communauté, on aura moins d'impact, mais au moins j'aurai la paix. Ça, c'est la tentation de beaucoup de pasteurs, après avoir essuyé quelques échecs. Mais, comme disent certains, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des mauvaises expériences. Donc, il faut recommencer. Et vous pouvez vous imaginer que j'ai observé cela pendant des années, quelques décennies, où effectivement certains leaders, responsables, pasteurs d'église ont cessé de vouloir former des collaborateurs à cause des déceptions et des échecs. Et c'est un tort. Donc on va voir comment éviter au maximum, ce n'est pas une garantie à 100%, comment éviter au maximum de choisir des mauvais collaborateurs. Et puis, même lorsqu'il y a la défection dans les troupes, dans les équipes, il ne faut jamais s'arrêter de former de nouveaux collaborateurs. C'est-à-dire qu'on va s'y prendre différemment. On va apprendre par les leçons, on va apprendre par les expériences, on va apprendre par le vécu de s'y prendre différemment. Mais le but initial, le but final pour nous dans le ministère, c'est néanmoins de former des collaborateurs. Vous pouvez faire le choix du premier schéma, c'est-à-dire je ne m'embête pas avec les autres, je fais mon petit job, je maintiens la communauté à telle taille, ce qui m'évite de prendre des collaborateurs, et puis si j'arrive comme ça jusqu'à la retraite, ce sera déjà une réussite. C'est vrai, vous pouvez vivre ça. Mais franchement, il n'y a rien de... Au niveau de la démonstration du royaume, là, vous aurez simplement la récompense de votre choix. D'accord ? Mais vous pouvez viser plus haut, quelque chose de plus grand, et de rentrer réellement dans votre rôle de ministère décrit dans Éphésiens 4. D'accord ? Les ministères sont là pour perfectionner les saints et les amener à une certaine maturité dans le service. Donc ça, c'est notre rôle, j'allais dire, principal. OK. Donc, comment nous y prendre ? Une première chose, c'est qu'il faut sélectionner les meilleures personnes. C'est évident que si vous prenez les pires, ça va être, le travail sera beaucoup... Il est possible, mais il sera plus compliqué, quoi. Essayez de prendre les meilleurs, d'accord ? Mais les meilleurs selon un critère biblique, pas selon nos critères personnels, bien que nous avons un rôle à jouer dans le discernement, mais le discernement en fonction de ce que le Seigneur nous dit dans l'Écriture. D'accord ? On peut parfois faire des parallèles entre l'Église et puis le monde séculier. Mais on n'est pas sur les mêmes valeurs. Et vous pouvez être, par exemple, chef d'entreprise et mener à bien, même très bien, votre entreprise. Et puis vous pouvez être pasteur en même temps, j'en ai connu quelques-uns, et essayer de reproduire dans l'Église ce que vous faites à l'usine. Et ça ne marche pas forcément, parce qu'on n'est pas sur les mêmes critères. D'accord ? À l'usine, vous êtes sur un critère de salarié, c'est-à-dire que votre leadership ne se discute pas, on ne discute pas le patron. Si on n'est pas content, on quitte l'usine, on trouve une promotion ailleurs, on change de boîte. À l'Église, ce n'est pas le même leadership. Vous êtes sur un leadership beaucoup plus élevé, puisqu'il s'agit de volontaires. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans l'Église, les gens vont vous suivre par choix. À l'usine, ils vous suivent parce que vous leur donnez à manger, c'est tout. Vous leur donnez un salaire, quoi. Donc ce n'est pas la même chose. Donc il faut faire attention. Il y a certaines choses qui peuvent être... effectivement, on peut s'inspirer dans le monde séculier. Mais si vous voulez vraiment une bonne inspiration, cherchez-la plutôt dans l'Écriture, au niveau des critères de sélection, que dans le monde séculier. D'accord ? Voilà. C'est simplement des idées que je vous donne, là. Il n'y a pas... Donc, il faut sélectionner les meilleures personnes. Vous devez sélectionner les meilleurs candidats au sein de votre communauté. Si vous effectuez le bon choix, vous allez en... retirer de nombreux avantages, parce qu'ils deviendront des collaborateurs avec vous dans l'œuvre. Si vous faites, par contre, le mauvais choix, vous verrez alors vos problèmes se multiplier. Et dans certains cas, la situation va paraître sans issue. Il n'y a rien de tel d'avoir mis en place des collaborateurs et puis s'apercevoir que, finalement, vous avez peut-être fait un mauvais choix. Donc, vaut mieux prendre du temps, et on va le voir... C'est ce que, en tout cas, Paul nous conseille. Il faut prendre le temps nécessaire, et ne pas faire des choix en urgence ou par précipitation. Il n'y a rien de tel, parce que c'est là qu'on se plante. C'est là qu'on fait les erreurs. Trop souvent, les responsables choisissent leurs collaborateurs à l'aveuglette, soit par manque de temps, ou tout simplement par ignorance, parce qu'ils ne se sont pas suffisamment penchés sur les critères à respecter dans le choix des collaborateurs. Lorsque vous avez choisi une personne, c'est comme faire du parachutisme en chute libre. Une fois que vous avez sauté de l'avion, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous ne pouvez pas remonter dans l'avion, quoi. Et quand vous avez mis quelqu'un en place, eh bien, c'est très difficile de lui dire, finalement, excusez-moi, je me suis trompé, très mieux qu'on revienne en arrière. Ce n'est pas possible. C'est possible avec parfois de la casse, quoi. Parfois de la déception, l'incompréhension et parfois de la colère. D'accord. Alors, à vrai dire, le secret pour faire un bon choix va dépendre de deux choses. La première, c'est que vous ayez une capacité à avoir une vision globale d'où vous allez, dans quelle direction vous voulez aller. Ça va vous aider à savoir quel type de collaborateur vous avez besoin. D'accord ? La deuxième, c'est votre capacité à juger les candidats au cours du processus de sélection. Alors, je voudrais essayer de vous donner quelques points qui vont vous aider à vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions qu'il faut se poser au moment où nous voulons choisir des collaborateurs. D'accord ? Donc, une des premières choses, c'est l'évaluation des besoins de la communauté au moment où vous voulez faire choix d'un collaborateur. C'est en quelque sorte, de quoi avons-nous besoin ? D'accord ? Je vous donne quelques exemples comme ça. Vous n'avez pas de moniteur pour le culte des enfants. Il y a un besoin. D'accord ? Donc, il faut évaluer le besoin. Ou peut-être, vous avez besoin d'être assisté pour tel ou tel service diaconal dans la communauté. Il faut évaluer le besoin. C'est de qui j'ai besoin autour de moi pour pouvoir faire avancer l'ensemble, pour faire avancer la vision globale. D'accord ? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'évaluation des personnes disponibles. Quelles sont les personnes disponibles au sein de la communauté ? Parce que vous pouvez identifier le besoin, et si personne n'est disponible, vous avez identifié le besoin, mais vous êtes toujours sans solution, parce que personne n'est dispo. D'accord ? Et je dirais que vous pouvez avoir les gens les plus talentueux, les plus compétents, ceux qui ont le savoir-faire, et s'ils ne sont jamais là. Et si, c'est bien, mais ça vous fait une belle jambe, quoi, dans le sens où ils ne sont pas dispo. De la même manière que parfois, c'est l'inverse. Des personnes viennent vous rencontrer, dire, voilà, j'ai la formation, je sais faire, j'ai appris à faire, j'ai l'intelligence, j'ai tout. Mais je suis jamais là. Mais j'aimerais quand même faire quelque chose. On te remercie, mais quand tu seras un peu plus dispo, à ce moment-là, on pourra se revoir. Donc, la disponibilité est aussi importante. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, c'est un défi d'avoir les personnes disponibles parce qu'elles sont prises dans leurs activités, sur le plan parfois professionnel, sur le plan familial, sur le plan qu'importe. Les raisons, et les bonnes raisons. Ou parfois, c'est des personnes qui sont tellement bonnes, qui ont tellement à cœur de faire tellement de choses, que finalement, elles-mêmes se piègent à ne pas pouvoir se rendre disponibles. Voilà. Je dirais, ça, parfois, c'est un peu rageant, quand vous êtes responsable, dire c'est vraiment dommage, parce que ça aurait été probablement un bon choix, mais c'est un choix qui n'est pas là. Donc, qui est présent sur une liste, mais pas forcément présent physiquement. Un autre point, dans la manière qui va nous aider à choisir, c'est l'évaluation des aptitudes des gens. Qui est apte à faire ce travail ? Je vous donne vraiment des choses qui n'ont pas de sens, mais Imaginez que vous avez vraiment besoin de dire, tiens, si on avait vraiment quelqu'un qui pouvait prendre soin du bâtiment de l'Église, ça serait génial. Ce serait super. Ça m'enlèverait, en tant que ministère, en tant que responsable de l'Église, de m'assurer que la prise là fonctionne, que l'ampoule là, ou le coup de peinture. Mais par contre, vous n'avez personne qui sait bricoler. Donc, on a évalué le besoin. Les gens sont là, mais personne ne peut répondre à cela. Donc, vous pouvez avoir la tentation de confier cela à quelqu'un qui n'a jamais changé de prise ou qui n'a jamais changé une ampoule, simplement parce qu'il est sympa et il est dispo. Sauf qu'il est dispo, mais il ne répond pas aux besoins. Vous pouvez être tenté de le prendre, de lui dire on va quand même lui apprendre à changer une prise, etc. Mais ce ne sera jamais son truc, comprenez ? Donc, ça, c'est aussi, j'allais dire, une difficulté qu'on peut rencontrer. Qui est apte à faire ce travail ? Ensuite, un autre point, le quatrième, l'évaluation des attitudes des personnes. C'est qui est disposé à faire ce travail ? Parce que vous pouvez avoir évalué le besoin, les personnes sont disponibles, elles savent faire, mais est-ce qu'elles veulent faire ? Le bon sens voudrait parfois qu'on utilise les personnes qui savent faire. C'est toujours mieux, je vous le dis. Mais est-ce qu'elles veulent faire ce qu'elles savent faire ou est-ce qu'elles veulent faire autre chose ? Et ça, parfois, c'est une difficulté que nous rencontrons dans le choix des collaborateurs. C'est-à-dire que, imaginons que, par rapport à la personne, dites, tiens, ça, ce serait vraiment un bon diacre, une bonne diaconesse. Elle a tout ce qu'il faut, elle remplit les cases qu'on vient de voir, mais cette personne, elle veut être prédicateur. Elle ne veut pas faire ce que vous lui proposez. C'est comment faire avec ce genre de situation. Ce qui est parfois plus subtil dans le choix des collaborateurs, parce qu'on doit se rappeler que nous connaissons les personnes que partiellement. C'est pour ça qu'il nous faut un discernement plus grand que ce que nous voyons à l'apparence. Ce qu'on voit à l'apparence, parfois, est simplement la pointe de l'iceberg. Et le reste, que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas, vous allez le découvrir, mais seulement avec le temps. C'est la raison pour laquelle il faut aussi du discernement. C'est-à-dire que Dieu permet de voir ce que mon œil et mon oreille n'ont pas encore vu de la personne. D'accord ? Donc, ça, c'est aussi un problème. Donc, c'est qui est disposé à faire le travail qui est là et qui pourrait répondre aux besoins de la communauté. Le cinquième dernier point, c'est l'évaluation de ce que réalisent les personnes déjà, celles qui effectuent déjà ce travail. Et là, c'est beaucoup plus simple de dire, nous avons un besoin. La personne est disponible, elle sait faire ce qui est demandé, et en plus, elle veut le faire. Donc là, je dirais que c'est pas très compliqué de dire ou de penser que c'est probablement la bonne personne à former pour en faire un collaborateur, collaboratrice. Donc, commencez toujours à évaluer les besoins et le responsable donc principal de la communauté ou de l'équipe doit se baser sur la vision globale pour faire cette évaluation. C'est-à-dire, où est-ce que je vais avec la communauté ? Où est-ce que je veux aller ? Et quelles sont les personnes dont j'ai besoin pour aller là où je veux aller ? Vous me suivez toujours ? Oui ? OK. Vous pouvez faire autrement, c'est-à-dire vous manquez de vision, vous ne savez pas où vous allez, vous avez les gens au milieu de vous, vous n'avez pas fait les grilles d'évaluation, et les gens viennent à vous pour eux, vous imposer ce qu'ils veulent faire. Et là, on rentre aussi dans une phase de difficulté, parfois de conflit, d'incompréhension, et dans certains cas de rupture. C'est à vous, en tant que responsable, de fixer le cap et de se dire avec qui on y va. OK ? Alors, quels sont les critères de sélection ? Paul, dans l'Épître à Timothée, je vais prendre le texte pour le lire avec vous, nous donne certaines qualités requises pour pouvoir faire de ces personnes des collaborateurs. Là, il est question de collaborateurs reconnus au sein de la communauté. D'accord ? Je ne parle pas simplement de collaborateurs, j'allais dire de disciples qui ont aussi un rôle à jouer, puisque tout disciple vivant dans la communauté est amené à s'impliquer pour faire avancer le royaume de Dieu. Et je parle de choix, de collaborateurs avec qui on va devoir travailler, avec qui on va devoir collaborer, avec qui on va devoir parler, construire ensemble. Donc, il y a un minima de qualité que Paul donne concernant les diacres ou concernant les anciens, c'est-à-dire ceux qui participent à la vie et à la direction de l'Église. Je vais prendre un Timothée, donc chapitre 3. Déjà concernant ceux qui sont appelés à l'enseignement, à la prédication, à paître le troupeau avec vous. Voici ce qui est dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ça, c'est la première partie. Deuxième, il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, quand nous lisons ça, Paul met quand même une barre assez haute sur laquelle nous pouvons nous inspirer lorsque nous voulons faire le choix de collaborateurs qui, demain, avec vous, vont devoir paître le troupeau. Là, on peut parler des anciens, des futurs ministères, ceux qui prennent part au ministère de paître le troupeau et de donner de la direction au troupeau. Donc, la barre est assez élevée. Alors, elle est pas, la liste n'est pas exhaustive. On pourrait rajouter encore d'autres choses. Mais déjà, ça, c'est pas mal. D'accord ? Si déjà on se tient à cela, ça permet pour nous d'affiner notre discernement. D'accord ? Vous remarquez que ce qui est demandé, là, n'est pas lié directement à la compétence, au don ou au talent de la personne. C'est à la vie de la personne. C'est qu'est-ce que la personne vit. Et parfois, nous pourrions faire l'entorse de choisir des personnes compétentes, même si il y a encore des choses à régler. Vaut mieux laisser les choses se régler et ne pas nous fier seulement à la compétence. Parce que quand nous nous fions à la compétence, c'est parce que nous voulons choisir un raccourci pour nous soulager. Mais il n'y a pas de raccourci dans le royaume. Quand nous pensons qu'il y en ait, souvent ces raccourcis sont soit des voies sans issue ou des chemins qui vont nous amener plus de problèmes que si nous étions passés de cette personne. Donc, je ne dis pas qu'il faut prendre des gens sans compétence, je ne dis pas ça. Je dis que le critère n'est pas lié d'abord aux dons, aux talents. Vous pouvez avoir quelqu'un, moi j'en ai connu, qui avait des dons d'orateur exceptionnels. Exceptionnels. Sans formation. Ils avaient ça naturellement, ils étaient capables de prendre la parole et puis... Mais la vie à côté de ces gens-là, alors ils savaient bien parler, ça c'est sûr. Ils étaient capables d'apporter un bon message, dynamique, attrayant et tout. Mais la vie derrière, il ne fallait pas la regarder, quoi. Il fallait vraiment se concentrer uniquement sur le contenu et la forme du message. Il ne fallait pas regarder celui qui apportait le message. Donc on voit que les critères que Paul met en avant sont d'abord... Qui sont les personnes? Qu'est-ce qu'elles vivent avec Dieu? Quelle est leur relation à Dieu, plus que leurs dons et leurs compétences? Je ne suis pas très inquiet pour les gens qui estiment manquer de compétences. Parce que Dieu, dans sa grâce et son grand amour, saura toujours donner les outils, les dons nécessaires aux personnes qui répondent d'abord aux critères. D'accord ? Ne cédez pas à la tentation d'inverser les choses. Parce que vous ne gagnerez jamais du temps, vous allez en perdre beaucoup après. D'accord ? Donc, vous avez compris que je ne vais pas prendre chaque point. Hein, pour simplement, pour les diacres également, c'est-à-dire ceux qui ont une tâche spirituelle, mais liée plutôt au fonctionnement de la communauté, les diacres doivent être aussi éloignés de la duplicité, des excès de vin. Ça revient. Vous avez remarqué dans les listes, dans les deux listes, il y a des choses qui reviennent, hein, pour les deux. Donc, Paul dit, on peut boire un peu de vin, c'est pas le problème de boire du vin, d'accord. Le problème, c'est les excès, d'accord. Okay. Il faut que la personne soit éloignée d'un gain sordide, c'est-à-dire où est-ce que j'en suis avec cupidité, avec l'argent, etc. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord. Donc, vous voyez, il y a aussi pour le diacre un temps où on doit les éprouver, c'est-à-dire qu'on doit les mettre en situation pour voir comment ça réagit. Et pas se précipiter pour les installer. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus. Donc, ce qu'on voit, c'est que, et l'un pour l'autre, nous ne devons jamais nous précipiter, d'accord ? Nous devons éprouver les personnes, et nous savons qu'ils seront éprouvés dans certaines situations. On a souvent dit que tant qu'une personne n'était pas passée par le feu, ou tant qu'une personne n'avait pas fait une rencontre puissante avec Dieu, dans notre jargon évangélique, on a souvent entendu dire tant que la personne ne boite pas, comme Jacob a boité dans sa rencontre avec Dieu, alors ce n'est pas forcément physiquement, vous avez compris, hein, mais on a du mal à l'évaluer. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas que ce soit un nouveau converti. Pour éviter qu'ils tombent dans les pièges du diable. Il faut du temps. Après, entendons-nous. Certains mettent tellement de temps, soit les gens sont partis ou ils sont morts maintenant. D'accord ? Non, il faut être raisonnable aussi. D'accord ? Mais il ne faut pas que ce soit un nouveau converti. Donc ça nous aide. Il faut lui laisser le temps à la personne de faire ses premières armes, quand même, avec le Seigneur. On peut rajouter quelques points comme cela qui m'est venu à l'esprit. Il faut que la personne reste enseignable, disponible, qu'il y ait un caractère éprouvé. Il faut que la personne soit stable, fidèle dans les questions d'argent. Travailleur aussi. On retrouve tout ça, ces qualités, c'est Washmani dans son livre « Le vrai serviteur de Dieu » les rappelle. Et je suis assez d'accord avec ça. Assurez-vous que la personne est stable, même sur le plan émotionnel. Qu'elle soit, j'allais dire, qu'elle ait mis ce qu'il faut dans sa vie pour guérir de son passé ou de certains chocs. Pourquoi ? Parce que sans quoi, ces choses-là ressortiront dans l'exercice du service. Il ne faut pas, comme je l'ai dit, se fier seulement au talent, mais au caractère. Quand je partage ça aux étudiants, il y a deux courbes dans notre vie. Il y a la première courbe, c'est tout ce que nous pouvons réaliser justement avec ce que nous sommes, les dons, les talents, les capacités, les possibilités que nous avons ou que Dieu nous a données. Et ça, c'est une courbe qui, en général, se développe assez vite, assez rapidement. Si vous vous fiez qu'à cette courbe, comme je vous l'ai dit, vous risquez de prendre des risques que vous allez regretter. Il y a l'autre courbe qui est la courbe du caractère. La manière dont nous sommes éprouvés, la manière dont nous réagissons, la manière dont nous répondons, la manière dont nous agissons, la manière dont nous sommes soumis, la manière dont nous sommes enseignables, ce qui forme notre caractère. Et il est important que ces deux courbes puissent se croiser, et c'est au moment où elles se croisent, à ce point fixe où elles se croisent, que la personne est bonne à utiliser. Tant que le caractère, lui, va se développer beaucoup moins visiblement et beaucoup moins rapidement que les dons et les talents. Les gens seront plus à même de vous faire voir ce qu'ils savent faire que ce qu'ils sont. D'accord ? Donc ne prenez pas le risque de les mettre trop tôt ou trop vite au travail sans avoir éprouvé le caractère, sans quoi vous allez être dans une phase de découverte où là, ce sera très difficile de redire à la personne finalement, on t'a mis en place, mais vu tes réactions, on va peut-être attendre ou revenir en arrière. Vous pouvez le faire. Mais ça, c'est toujours des phases risquées de rupture. Et le responsable, ce n'est pas la personne, c'est vous. C'est à vous d'attendre le bon moment pour dire à la personne, il est bon maintenant, il est temps maintenant qu'on aille plus loin et on aimerait, voilà. Mais attendez que les deux courbes se croisent. Ne le faites pas avant. Alors, ça, c'est un peu l'identification. Vous avez identifié vos collaborateurs, vos potentiels, vos futurs collaborateurs. Vous avez regardé, vous avez observé, vous avez attendu, vous avez éprouvé, vous avez etc. Maintenant, comment je vais susciter ce collaborateur ? Comment je vais l'aider à prendre, je dirais, son rôle, sa place, son service, dans certains cas, son ministère ? Quelques pistes par rapport à ça. Comme nous l'avons dit en introduction, notre vocation première en tant que ministère, c'est de lever des collaborateurs. Je vous ai déjà partagé à certains la grande déception de Billy Graham à la fin de sa vie. Lui-même fait cette déclaration qu'il était dans le regret d'avoir exercé le ministère seul en tant qu'évangéliste Il dit, si c'était à refaire, je prendrais une douzaine d'évangélistes et je les formerais à ce dont j'ai reçu et au ministère que j'ai exercé. C'est-à-dire, c'est comment, en tant que ministère, je me reproduis. Et je me reproduis en formant des disciples qui deviennent des collaborateurs et qui deviennent des ministères. Mais notre première mission, ce n'est pas de faire le ministère. J'insiste, hein, je me répète, mais j'aimerais tellement que ça rentre. C'est de se dire, comment je peux former d'autres ministères? D'accord? Donc, pour engendrer des collaborateurs, il y a plusieurs choses. Première chose, il faut apprécier ses collaborateurs pour ce qu'ils sont. En quelque sorte, voyez-les comme une grâce que Dieu vous fait, comme un don que Dieu vous fait, comme un cadeau que Dieu vous fait. Parce qu'ils vont, et pour eux et pour vous, être le prolongement pour le royaume de Dieu. Donc c'est une grâce. La pire chose qu'on entend, c'est quand certains pasteurs arrivent à la fin de leur vie ou à la fin de leur ministère et il n'y a personne pour reprendre l'Église. Je dis, mais il a été dans cette Église 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y a personne. C'est qu'il y a un problème. Il y a eu un problème quelque part. Il y a eu un dysfonctionnement quelque part. Et l'idée, pour nous, c'est de mettre un petit peu le doigt là-dessus pour dire, si ça a été le cas pour moi, comment je peux sortir de cela et comment je peux avoir des collaborateurs? Parce que votre première tâche n'est pas de prêcher. Elle n'est pas de remplir un auditoire. Même si ces choses sont bonnes et utiles pour le royaume, première tâche, c'est qui est-ce que je suis en train de former comme disciple ou comme collaborateur? J'ai entendu des choses à ce sujet. Je me souviens d'un frère qui, consciemment, a fait le choix de ne pas avoir de collaborateur. Il dit, je veux pas de collaborateur. Comme ça, en gros, je suis tranquille, quoi. Personne ne m'enquiquine, quoi. Je fais mon ministère, mais je ne veux pas m'embêter avec des collaborateurs. Le drame, c'est que nous savons ce que ça produit à la fin de son ministère. C'est qu'effectivement, il n'y aura personne pour reprendre. Je pense, personnellement, que ce type de service ne correspond pas forcément à ce que le Seigneur nous enseigne et ce que Paul nous enseigne. Si Jésus avait fait cela, il n'y aurait jamais eu personne formée au moment où il est parti. Si Paul avait fait comme cela, ou les autres apôtres avaient fait cela, l'œuvre se serait arrêtée avec les premiers apôtres. Mais si elle s'est poursuivie jusqu'à présent, c'est parce que beaucoup ont suivi ce que j'entends par le modèle biblique sur la transmission. Nous devons transmettre. Donc, il faut apprécier les collaborateurs pour ce qu'ils sont. Vous pouvez rêver de super collaborateurs qui n'existent pas encore, ou peut-être parce que vous ne les voyez pas encore comme tels. Appréciez-les comme ils sont. Et puis, essayez de voir ce que personne d'autre voit chez eux. Il y a une image qui a été donnée, que j'ai trouvée assez intéressante. Les chercheurs d'or, par exemple, bien souvent, ils remuent des kilos de poussière pour trouver quelques grammes d'or. Eh bien, chez les collaborateurs, c'est la même chose. Vous ne fiez pas à la poussière, cherchez l'or qui est chez eux. Ayez le bon discernement de voir ce que peut-être eux-mêmes ne voient pas encore. Essayez de le voir. En regardant tel collaborateur ou tel disciple dans votre église, est-ce que celui-ci, est-ce que celle-là, il n'y aurait pas un peu d'or à extraire? Est-ce que je suis prêt à me mettre au travail pour extraire l'or qu'il y a dans le cœur et dans l'esprit de cette personne. Okay. Donc, premièrement, apprécier ses collaborateurs pour ce qu'ils sont. Toujours à ce sujet, n'ayez pas peur des différences. On va le voir un peu plus loin. Mais n'ayez pas peur que les personnes soient différentes de vous. Si vous cherchez que des personnes qui vous ressemblent, vous n'allez pas aller vers, j'allais dire, le développement. Vous allez vers l'appauvrissement. Cherchez des personnes qui sont différentes de vous. Parfois, très différentes de vous. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que si vous voulez faire que du clonage, vous enlevez l'idée que vous êtes unique au monde. Peut-être que vous avez un problème avec vous-même. Donc, ne cherchez pas des personnes qui vous ressemblent trop. D'accord ? Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir de points communs, mais qui vous ressemblent trop. D'accord ? La deuxième chose, pour engendrer... c'est de croire qu'ils feront de leur mieux. Si vous choisissez, j'exagère, hein, des bons à rien, ne vous attendez pas qu'ils fassent du bon boulot. On est bien d'accord. Si vous avez sélectionné ces personnes, c'est parce que vous croyez qu'ils vont faire de leur mieux pour répondre à ce que vous attendez. On est d'accord avec ça ? D'accord ? Donc, en quelque sorte, nous sommes renvoyés à la foi que nous devons croire que ce qu'ils vont faire. Vous avez eu du discernement, vous les avez sélectionnés, vous les avez choisis. Mais continuez dans votre démarche en croyant qu'ils vont faire du mieux qu'ils pourront pour collaborer. Un autre point, troisième point, c'est les encourager par rapport à ce qu'ils font. Ça me parle. Parce que moi, je sais que j'ai besoin toujours veiller à pouvoir apporter les encouragements. Ce n'est pas spontané chez moi. On me l'a souvent reproché. Et je l'entends. Je ne botte pas en touche. Et j'essaie de faire des efforts. Finalement, on s'aperçoit, et je m'en suis aperçu, et je continue à constater chez moi, que finalement, on a du mal à donner ce qu'on n'estime pas être utile pour soi. Et je ne dis pas que je n'aime pas être encouragé. Mais si je ne suis pas encouragé, ça ne change rien pour moi. Je ne fonctionne pas en fonction des encouragements qu'on me donne, ou pas. Et encore une fois, je vous rassure, quand on m'encourage, ça me fait du bien. Je ne dis pas, non, je n'ai pas besoin. Non, je reçois. Ça me fait du bien. Mais si ce n'est pas là, ce n'est pas grave. Et j'ai tendance à penser que les autres fonctionnent comme moi. C'est-à-dire que si on les encourage, ils sont très contents. Si on ne les encourage pas, ça ne va rien changer. Sauf que pour certains, ça change beaucoup. Ils ont besoin peut-être plus qu'on les encourage. Donc je vous demande encore pardon hein, pour les fois où je ne vous ai pas suffisamment encouragé. Mais je travaille. Je travaille sur moi. Hein. Et j'essaie d'y penser. Parce que le problème, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'y pense pas. C'est pire, quoi. Ce serait un choix délibéré de ne pas vouloir encourager. C'est péché. Mais là, je suis innocent dans le sens où j'y pense pas, quoi. Voilà. Ok. Vous me comprenez, quoi. Voilà. Je vous demande pas de m'accepter tel que je suis. C'est à moi de faire un effort. Ok. Mais si vous êtes différent que moi, encouragez vos collaborateurs. Voilà. D'accord. Je pense qu'en même temps, là, c'est une touche simplement personnelle. Ne devenez pas dépendant des encouragements, parce que ça, c'est très piégeant. Parce que là, ça peut être une forme, j'exagère, hein, mais une forme d'addiction. C'est-à-dire le jour où on ne m'encourage plus, je suis perdu. Non, continue à faire ce que tu penses être juste devant Dieu. Et puis si on t'encourage, ben, c'est merveilleux. Si on t'encourage moins, ne le prends pas mal. Voilà, ok. Un autre point, quatrième point, c'est que nous devons, pour engendrer des collaborateurs, reconnaître sa propre responsabilité en tant que responsable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez choisir des collaborateurs, vous allez devenir responsable de vos collaborateurs. C'est-à-dire vous êtes quelque part engagé envers eux. Vous ne pouvez pas simplement propulser quelqu'un et dire « voilà, débrouille-toi et moi j'enlève toutes mes responsabilités ». Non, vous avez quand même une part de responsabilité à partir du moment où vous choisissez des collaborateurs. Au moment où vous choisissez des collaborateurs, c'est à ce moment-là précisément que vous devenez responsable. D'eux, je parle. Donc le tout, c'est de former une bonne et seule équipe. À partir du moment où vous choisissez des collaborateurs, vous ne pouvez pas leur dire « vous êtes là pour exécuter simplement les tâches et moi, je suis simplement là en tant que responsable, je suis en tant que boss là ». Non, vous formez une équipe avec. Et ce qui est important, c'est et le responsable comme les collaborateurs doivent sentir qu'il y a une équipe qui se forme et que nous allons travailler ensemble à quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut les impliquer dans ce que vous pensez avoir reçu, et il faut les impliquer dans la direction dans laquelle vous allez. Si vous avez besoin simplement de gens qui exécutent ce que vous n'avez pas envie de faire, ce type de collaborateur, il ne reste pas longtemps. Parce que ça, ils vont vite le sentir. Ils vont dire, je suis là pour faire ce qu'il n'a pas envie, et puis point. Non, on est appelé à aller plus loin et à aller vers une notion d'équipe. D'accord ? Pour cela, dans cette notion d'équipe, il y a trois choses qu'il faut se souvenir. C'est-à-dire que le responsable doit accepter de se remettre en question, la première chose. C'est-à-dire, si ça va mal, c'est la faute du responsable. C'est-à-dire qu'il nous faut la capacité de se dire, ça n'a pas marché, on n'a pas atteint l'objectif, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos relations, il faut que je me remette en question. Qu'est-ce que je peux faire de mieux, de différent, pour que ça marche ? Ça ne peut pas être que les collaborateurs qui ont toujours tort. Ce n'est pas possible. Si vous pensez ça, vous allez faire le ménage autour de vous et finalement, vous allez vous retrouver seul. Et si vous êtes responsable, la première chose, c'est je dois me poser les bonnes questions. Et quand même, j'estime qu'il y a une grande part de responsabilité chez un ou plusieurs collaborateurs parce que ça ne marche pas, je dois quand même me poser la question, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas vu cette situation arriver ? Je dois me remettre en question. Et il ne s'agit pas de se flageller, de dire « je suis un mauvais responsable, je suis un mauvais responsable, je demande pardon, je suis un mauvais responsable ». Ce n'est pas ça. C'est dire « pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché ?» Donc, premièrement, remise en question. Ensuite, si ça va assez bien, ben là, par contre, on peut dire « ça revient à l'ensemble ». De l'équipe. Ça a bien marché. On avance bien. On a réussi. On a atteint l'objectif. Ça fonctionne bien. Tout se passe pour le mieux. Donc, il faut inclure les autres et se réjouir avec eux. Ce n'est pas parce que ça marche bien que vous en êtes le seul auteur. C'est-à-dire, ça marche bien grâce à moi. Tu participes en tant que responsable. Tu collabores. Tu as mis ta main. Mais c'est aussi... les collaborateurs, c'est eux qui ont permis que. D'accord ? La troisième étape, si ça va très bien, eh bien, nous pouvons aussi dire, et nous devons reconnaître en tant que responsables, que si ça va très bien, c'est grâce aux collaborateurs. Et ça, il faut, d'une manière ou d'une autre, tenter de faire passer le message. Parce que ce que vous avez réussi quand tout va très bien, c'est simplement de permettre aux uns et aux autres, par le don qu'il a reçu, de pouvoir l'exercer et de faire avancer la machine. Et là, on peut parler de réussite quand tout va très bien, Mais ce n'est pas une réussite individuelle, c'est une réussite collective. Notre nature humaine cherchera toujours à tenter de récupérer quelque chose pour notre propre gloire. On est fait comme ça. C'est terrible. Hein, relisez les évangiles, vous verrez l'attitude parfois des disciples. Rien à faire, c'est là. Qui sera le plus grand? Qui sera assis à la droite? Est-ce que vous êtes mis dans la peau un instant des 9 apôtres qui restaient quand Jésus partait assez régulièrement avec les 3? Qu'est-ce qu'ils ont pu nourrir dans leur tête? Et puis peut-être même entre eux. Ils étaient tellement préoccupés qu'ils n'arrivaient même pas à chasser les démons. Quand ils sont allés sur la montagne, 9 apôtres pour chasser un démon, ils ne sont pas arrivés. Un apôtre sur 9 démons, ça se comprend. Mais 9 apôtres pour un démon. Je ne sais pas à quoi ils pensaient quand les 3 étaient sur la montagne. Et heureusement, Jésus a dit aux 3, vous ne dites rien, quoi. Vous pourrez en parler seulement quand je serai parti. Est-ce que vous imaginez comment ils auraient pu redescendre suite à cette expérience unique qu'ils ont vécue avec eux, avec le maître, rien que les 3. Et puis, ce que les autres apôtres auraient pu nourrir de ne pas avoir vécu cette expérience unique. Pourquoi on n'est pas assez bien? C'est toujours les mêmes. Même Jésus a des chouchous. Vous voyez, ce genre de choses qui auraient pu... Donc, tant que c'est possible, ramenons ça au collectif et non pas d'une manière individuelle. Les responsables savent que la tâche la plus importante est de recruter les bonnes personnes et de les garder. Ce n'est pas toujours évident. On sait que ces personnes que nous formons, ces collaborateurs que nous formons, constituent la santé et la croissance principale d'une communauté. C'est-à-dire, plus vous avez de bons collaborateurs, plus vous vous donnez la possibilité de développer l'œuvre. On estime qu'un pasteur seul, dans une communauté, ne peut pas paître au-delà de 200 personnes. Ce n'est pas possible. Si vous avez une grande vision, et vous pouvez l'avoir, eh bien, si vous dites, je suis dans cette ville, et on peut en sortir quelques centaines, voire peut-être quelques milliers, donc qu'est-ce que je mets en place maintenant? Qu'est-ce que je prévois dans ma vision globale pour que je puisse me mettre à travailler, à avoir des collaborateurs qui, avec eux, donneront la possibilité d'accueillir plus de personnes? Et on n'est pas dans des chiffres pour nous. On est dans le salut individuel de chaque personne. Chaque personne qui compose une communauté est potentiellement une personne régénérée, pardonnée, délivrée, sauvée pour l'éternité. C'est ça qu'il faut viser. C'est pas dire on a 50, on a 80, on a 200 ou 500 ou 1000 personnes. Ce qu'il faut, c'est remettre à chaque fois le salut individuel de chaque personne sauvée. Et c'est ça notre vision. C'est qu'un maximum de personnes puissent être sauvées. Ce qui m'interroge beaucoup, c'est que finalement, le salut va dépendre, le salut d'un plus grand nombre va dépendre aussi de l'Église. Moi, très sincèrement, dans la confidence, c'est ça qui m'inquiète beaucoup, qui me remet beaucoup en question, parce que je me dis, on peut être le moyen de salut, puis on peut être le moyen de fermer la porte au salut d'un plus grand nombre. Donc, on a néanmoins une responsabilité pour le salut d'un plus grand nombre. On n'a pas, je ne me culpabilise pas. Je dis simplement que par des choix, qui vont être les miens, je peux donner la possibilité à une œuvre de se développer, et encore plus, ou pas. Si nous étions dans cette démarche où on laisse vraiment le Seigneur faire au-delà de nos personnes, je pense qu'on pourrait voir beaucoup plus de choses. Ok, je continue encore un petit peu avant la pause. Donc, les gens peuvent grandir, s'améliorer et devenir plus efficaces s'ils ont un responsable qui croit en eux. Il faut accorder de la confiance. Et je voudrais, avant la pause, m'entretenir sur la notion de confiance, un petit peu. Parce que parfois, on ne se comprend pas toujours au niveau de la confiance. Il y a une différence entre confier quelque chose à quelqu'un et livrer la personne à ce que vous voulez plus faire. Il y a une différence qui se situe là. Et puis, en même temps, ce n'est pas parce que vous confiez quelque chose à un nouveau collaborateur que vous n'avez plus, j'allais dire, un droit de regard sur ce que vous avez confié. Parce que parfois, la réaction, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des responsables qui, par manque d'assurance en eux, reproduisent ça chez les collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils veulent tout contrôler dans un esprit de contrôle parce qu'eux-mêmes ne sont pas rassurés. Ils ont besoin de se rassurer que ce qui a été demandé se fait bien. Et puis, l'autre versant, c'est quand nous demandons parfois des comptes, ou quand nous demandons des explications, une des premières réactions des collaborateurs, c'est « tu ne me fais pas confiance ». Ben, faire confiance n'enlève pas la possibilité, la liberté de poser des questions. Ou parfois, quand c'est nécessaire, de rectifier, de corriger, d'améliorer, de suggérer. Ce n'est pas une question de confiance. Moi, souvent, j'ai entendu cela. Souvent, les gens m'ont dit « Mais tu ne me fais pas confiance ». Et ma réponse est toujours la même. Elle ne bouge pas depuis des années. Et si je n'avais pas confiance en toi, on ne t'aurait jamais confié cette tâche ou ce rôle. Donc, ce n'est pas une question de confiance. On peut demander parfois des explications sans remettre en question le climat de confiance. La confiance, elle est importante. Je dirais que pour les responsables que nous sommes dans le ministère, c'est peut-être l'élément un des plus importants. Si les gens n'ont plus confiance en nous, c'est très difficile de les emmener quelque part. Donc, il faut que le climat confiance soit toujours respecté, dans les deux sens. Il faut que les personnes se sentent en confiance, puis en même temps, il faut qu'on puisse leur faire confiance. D'accord ? Mais cela, je vous dis, est dans les deux camps. Il faut que j'accepte de faire confiance. Et malgré le fait que je fasse confiance, je peux demander parfois des explications. Donc, veillez toujours à ce que le climat confiance soit bien respecté. C'est-à-dire, en quelque sorte, si je reprends quelques points de Paul à Timothée, ce que nous avons lu, lorsque quelques points sont endommagés, la crédibilité ou le manque de crédibilité va emmener un manque de confiance. Donc, nous devons absolument veiller sur notre crédibilité pour que les gens continuent à nous faire confiance. Ça va ? Parce que, je vous le dis, si vous avez des collaborateurs qui vous font plus confiance, la collaboration va être difficile. Ou elle se fera qu'à certains niveaux, mais l'aspect relationnel, qui est aussi un aspect important, sera endommagé par le manque de confiance. D'accord ? Je vous donne un dernier exemple pour aller à la pause. Imaginons qu'un de vos collaborateurs vienne se confier à vous, d'accord ? Qu'il y ait un moment de confidence, ou parfois même un moment de confession, et puis que vous ne le gardez pas pour vous. vous le partagez à d'autres. Là, je vous dis, le climat de confiance, il chute, c'est une chute libre. Ça veut dire que dans la tête du collaborateur, il continuera probablement à être collaborateur, mais jusqu'à un certain niveau. Parce que vous aurez fixé un niveau de non-confiance qui ne va pas lui permettre de vous faire confiance longtemps. Ou en tout cas, pas pour tout. C'est-à-dire que dans le cadre du travail, il va vous faire confiance. Dans le cadre de la relation, il ne vous fera pas confiance. Et c'est très difficile de travailler quand il n'y a pas de confiance. Donc, si on vous confie quelque chose, gardez-le. La pire chose, il me semble, c'est quand vous avez pensé vous avoir confié à un ami ou à un responsable et qu'il vous trahit. Parce qu'il a eu la langue bien pendue avec des gens autour de lui. Ça, je vous dis, ce genre de scénario, ça ne va pas loin. Non. Gardez les choses. Et même parfois, vous connaissez le dicton, avec ma femme, on se dit tout. Ben, moi, il y a beaucoup de choses, énormément de choses, je n'ai jamais dit à ma femme. Ma femme n'a pas besoin d'entendre ce que les gens me confient. Les gens ne sont pas venus se confier au couple, ils sont venus se confier à moi. De la même manière, s'il y a des personnes qui vont se confier à Joël, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Et je ne veux pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas, j'en ai suffisamment. Déjà. Et quand même les gens viennent, eh bien, il y a plein de choses qu'elle ne sait pas. Parce que je n'ai pas la liberté de la part des collaborateurs qui se confient de partager cela avec ma femme. S'ils me donnent la liberté, je peux le faire ou pas, j'ai la liberté de le faire ou pas, et de juger, savoir si c'est utile et édifiant pour ma femme ou pas. Mais il ne faut pas que ma femme devienne la poubelle des confidents. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de porter les choses, il ne faut pas que les gens viennent se confier à moi. Mais s'ils viennent se confier, c'est parce qu'ils estiment qu'ils peuvent le faire et que ça va rester entre quatre yeux. Et ça, c'est important. Parce qu'il n'y a rien de pire. Le climat confiance, là, peut être facilement endommagé si vous trahissez les gens et vos collaborateurs. Et même si vous vous dites, oh, monsieur, rien, c'est quoi le problème? J'ai partagé ça comme ça. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour la personne, c'était déjà un effort de venir de se confier. Donc, c'est pas rien. Si elle est venue se confier, c'est pas rien. Si c'était rien, elle ne serait pas venue. Vous comprenez? Donc, soyez vraiment prudent avec ça. Surtout si vous voulez garder une relation de cœur, d'amitié avec vos collaborateurs. Si vous avez besoin que d'employés et de collègues, ouais, vous en foutez, vous pouvez dire tout ce que... Mais ce n'est pas le cas. OK. Troisième point, c'est que le responsable, et peut-être celui-là il est très important, hein. Les trois sont importants, mais celui-là est important. Le responsable ne se sent pas menacé par les gens qui ont beaucoup de potentiel. Vous pouvez prendre que des bénis, oui, mais vous allez être seul. Voilà. N'ayons pas peur de gens qui ont un fort potentiel et qui peuvent devenir des collaborateurs. Ce sera à votre gloire. N'ayez pas peur, vous ne vous sentez pas menacé. Restez dans l'assurance que de ce que vous avez reçu et que celui que Dieu a placé à côté de vous, s'il a un fort potentiel, ce sera tout à l'avantage de la communauté. J'ai vu beaucoup de pasteurs prendre peur avec des gens qui avaient un fort potentiel. Et ils ont mis une telle barrière que finalement ces gens sont partis voir ailleurs. Et ce n'est pas que ces gens étaient mauvais, c'est que le pasteur ou le responsable, par son manque d'assurance, s'est senti menacé quant à son autorité, quant à ce qu'il avait reçu, etc. Donc, plus il y aura diversité de potentiel autour de vous, plus l'équipe sera forte. Ça n'enlève en rien votre leadership ou votre autorité. D'accord. Je termine avec ce court point. C'est-à-dire, plus vous avez des gens à diriger, c'est-à-dire plus l'assemblée se développe, plus vous avez besoin de collaborateurs. on cite l'exemple, toujours le même exemple de Moïse, qui a essayé de tout faire, tout seul. Et son beau-père lui a suggéré de trouver d'autres collaborateurs, de les recruter, de les former, afin qu'ils puissent l'assister dans ses tâches. Et Moïse a suivi le conseil et bientôt d'autres collaborateurs purent l'aider à effectuer le travail. Le résultat, cela donna un nouveau souffle à son travail et Moïse fut en mesure de satisfaire les besoins des gens. Peut-être vous n'avez pas un beau-père, mais peut-être vous avez une belle-mère qui peut vous aider dans le conseil. Donc, la conclusion, c'est qu'on peut définir la réussite ou le succès d'un leader comme l'utilisation maximum des compétences des collaborateurs qui travaillent avec. Ça veut dire que on pourrait tourner ça autrement. On pourrait se dire, montre-moi tes collaborateurs et je te dirai qui tu es. Voilà. Ça va, c'est pas trop agressif, ça ? Mais c'est un peu ça quand même. Donc, je peux que vous encourager, vous qui êtes en charge de communauté principalement, mais tous les autres aussi, c'est de vous mettre à l'œuvre de ce côté-là. Former, donner du temps pour lever des collaborateurs, parce que dans tous les cas, vous ne pourrez pas tout faire. C'est une erreur de penser que vous ne pourrez pas tout faire, que vous pourrez tout faire. Donc, si vous voulez aller beaucoup plus loin, si vous voulez avoir une vision beaucoup plus grande, mettez-vous à former quelqu'un. Donnez la possibilité à ceux que Dieu vous a donnés d'aller plus loin dans ce que Dieu leur a confié. N'ayez pas peur d'eux. Donnez-leur tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent avancer, grandir et se mettre au travail pour le royaume. Amen. Ok. Merci beaucoup.
Cette session est maintenant terminée. Nous vous invitons à écouter la suivante.